à Louise Collet, Croissy, nuit de samedi, 1h. 21 mai 1853. J'aime beaucoup le comte de Lille pour ses poèmes antiques, pour son talent, et aussi pour sa préface, pour ses aspirations. Car c'est par là que nous valons quelque chose, l'aspiration. Une âme se mesure à la dimension de son désir, comme l'on juge d'avance des cathédrales à la hauteur de leurs clochers. Et c'est pour cela que je hais la poésie bourgeoise, l'art domestique, quoi que j'en fasse. Mais c'est bien la dernière fois. Au fond, cela me dégoûte. Ce livre, tout en calcul et en ruse de style, n'est pas de mon sang. Je ne le porte point en mes entrailles. Je sens que c'est de ma part une chose voulue, factice. Ce sera peut-être un tour de force qu'admireront certaines gens, et encore en petit nombre. D'autres y trouveront quelques vérités de détail et d'observation. Mais de l'air, les grandes tournures, les larges et pleines périodes se déroulant comme des fleuves, la multiplicité des métaphores, les grands éclats du style, tout ce que j'aime enfin, n'y sera pas. Seulement, j'en sortirai peut-être préparé à écrire ensuite quelques bonnes choses. Je suis bien désireux d'être dans une quinzaine de jours afin de lire à bouillir tout ce commencement de ma deuxième partie, ce qui fera 120 pages, l'œuvre de 10 mois. J'ai peur qu'il n'y ait pas grande proportion, car pour le corps même du roman, pour l'action, pour la passion agissante, il ne me restera guère que 120 à 140 pages, tandis que les préliminaires en auront plus du double. J'ai suivi, j'en suis sûr, l'ordre vrai, l'ordre naturel. On porte 20 ans d'une passion sommeillante qui n'agit qu'un seul jour et meurt. Mais la proportion esthétique n'est pas la physiologique. Mouler la vie, est-ce l'idéaliser? Tant pis, si le moule est de bronze, c'est déjà quelque chose. Tâchons qu'il soit de bronze. À Louise Collet, Croissy, nuit de jeudi, 1h. 26 mai 1853. Je ferais mieux de continuer à travailler et de t'écrire demain, car je suis ce soir fort animé et dans un grand rut littéraire. Mais comme demain il peut revenir, cela me remettrait trop loin. Au plaisir que me font tes lettres, je pense que tu dois bien fort aimer les miennes. Et puis, il faut se méfier de ces grands échauffements. Si l'on a alors la vue longue, on l'a souvent trouble. Le bon de ces états-là, c'est qu'ils retrempent et vous infusent dans la plume un sang plus jeune. On a dans la tête toutes sortes de floraisons printanières qui ne durent pas plus que les lilas, qu'une nuit flétrie, mais qui sentent si bon. As-tu senti quelquefois comme un grand soleil qui venait du fond de toi-même et t'éblouissait? Oui, cela a bien marché aujourd'hui. Je me suis à peu près débarrassé d'un dialogue archi-coupé fort difficile. J'ai écrit aux 2/3 une phrase poétique et esquissé 3 mouvements de mon pharmacien qui me faisaient à la fois beaucoup rire et grand dégoût, tant ce sera fétide d'idées et de tournures. J'en ai pour jusqu'à la fin du mois de juin de cette première partie. J'ai relu presque tout. Le commencement sera à réécrire, ou du moins à corriger fortement. C'est lâche et plein de répétitions. je cherchais la manière qui, plus loin, est trouvée. Ça ne m'a pas semblé long, et il y a de bonnes choses. Mais par-ci, par-là, certains chics pittoresques inutiles. Manie de peindre quand même, qui coupe le mouvement et quelquefois la description elle-même, et qui donne ainsi parfois un caractère étroit à la phrase. Il ne faut pas être gentil. Il me semble du reste que les parties les plus nouvellement faites sont les meilleures. C'est peut-être une illusion. Mais ça n'est peut-être pas une, puisqu'à mesure que j'avance, j'ai plus de mal. Si j'ai plus de mal, c'est que j'y vois plus loin. On peut juger du poids d'un fardeau aux gouttes de sueur qu'il vous cause. À Louise Gollet, Croisset, mercredi minuit, 1er juin 1853. Voilà 3 jours que je passe à faire 2 corrections qui ne veulent pas venir. Toute la journée de lundi et de mardi a été prise par la recherche de 2 lignes. Je relis du Montesquieu. Je viens de repasser tout Candide. Rien ne m'effraie. Pourquoi ? À mesure qu'il me semble me rapprocher des maîtres, l'art d'écrire en soi-même me paraît-il plus impraticable ? Et suis-je de plus en plus dégoûté de tout ce que je produis ? Oh, le mot de Goethe, j'eusse peut-être été un grand poète si la langue ne se fût montrée indomptable. Et c'était Goethe. À Louise Gollet, Croisset, jeudi soir, minuit, 2 juin 1853. La semaine a été mauvaise. Je suis d'un sombre funèbre, harassé, ennuyé. Ces corrections que j'ai enfin faites, mais mal faites, m'embêtent. Il n'y a rien de pis pour moi que de corriger. J'écris si lentement que tout se tient, et quand je dérange un mot, il faut quelquefois détraquer plusieurs pages. Les répétitions sont un cauchemar. Et puis tout ce qui me reste encore à faire m'épouvante quand je songe que j'en ai encore pour des mois. Comme c'est long, c'est long. Bouillet va bien, lui. Ses fossiles seront une grande chose. Il est en progrès évident. Jamais il n'a été si crâne de forme ni si élevé d'idées. Mais moi, je ne suis pas brillant. Ce sujet bourgeois m'abrutit. Je me sens de mon haut mais. Ce sera un joli tour de force, je le sais, mais j'ai peur quelquefois de m'y casser les reins, ou du moins il me semble qu'ils faiblissent. Ah, quand donc pourrais-je écrire en toute liberté un sujet poétique ? Car le style à moi, qui m'est naturel, c'est le style dithyrambique et enflé. Je suis un dégueulard au désert de la vie. À Louise Gollet, Croisset, nuit de lundi, minuit et demi, 6 juin 1853. Il faut que j'aille à Rouen pour un enterrement. Celui de Madame Pouchet, la femme d'un médecin, morte avant-hier dans la rue où elle est tombée de cheval, près de son mari, frappée d'apoplexie. Quoique je ne sois guère sensible au malheur d'autrui, je le suis à celui-là. Ce Pouchet est un brave garçon qui ne fait aucune clientèle et s'occupe exclusivement de zoologie, où il est très savant. Sa femme, anglaise, fort jolie et d'excellente façon, l'aidait beaucoup dans ses travaux. Elle dessinait pour lui, corrigeait ses épreuves, etc. Ils avaient fait des voyages ensemble. C'était un compagnon. Le pauvre homme est complètement sourd et peu gai, naturellement. Il aimait beaucoup cette femme. L'abandon qu'il va avoir, comme le déchirement qu'il a eu, sera atroce. Bouillet, qui demeure en face d'eux, a vu son cadavre ramené en fiacre et le fils qui descendait la mer un mouchoir sur la figure. Au même moment où elle entrait ainsi chez elle, les pieds devant, un commissionnaire apportait une botte de fleurs qu'elle avait commandée le matin. Oh, Shakespeare ! Il y a de l'égoïsme dans le fond de toutes nos commisérations. Et ce que je sens pour ce pauvre mari, brave homme du reste, et qui portait à mon père une vraie vénération de discipline, vient d'un retour que je fais sur moi. Je pense à ce que j'éprouverais si tu mourais, pauvre muse, si je ne t'avais plus. Non, nous ne sommes pas bons, mais cette faculté de s'assimiler à toutes les misères et de se supposer les ayants est peut-être la vraie charité humaine. Se faire ainsi le centre de l'humanité, tâcher enfin d'être son cœur général où toutes les veines éparses se réunissent. Ce serait à la fois l'effort du plus grand homme et du meilleur homme, je n'en sais rien. Comme il faut du reste profiter de tout, je suis sûr que ce sera demain d'un dramatique très sombre et que ce pauvre savant sera lamentable. Je trouverai là peut-être des choses pour ma Bovary. Cette exploitation à laquelle je vais me livrer et qui semblerait odieuse si on en faisait la confidence, qu'a-t-elle donc de mauvais ? J'espère faire couler des larmes aux autres avec ces larmes d'un seul, passer ensuite à la chimie du style. Mais les miennes seront d'un ordre de sentiment supérieur. Aucun intérêt ne les provoquera. Et il faut que mon bonhomme, c'est un médecin aussi, vous émeuve pour tous les veufs. Ces petites gentillesses-là, du reste, ne sont pas besogne neuve pour moi. Et j'ai de la méthode en ces études. Je me suis moi-même franchement disséqué au vif en des moments peu drôles. Je garde dans des tiroirs des fragments de style cachetés à triple cachet et qui contiennent de si atroces procès-verbaux que j'ai peur de les rouvrir. Ce qui est fort chaud du reste, car je les sais par cœur. Mais parlons de nous. Tu me parles de lire je ne sais quel numéro de la Revue des Deux Mondes. Je n'ai pas le temps de me tenir au courant. Phrase de mon brave professeur d'histoire chez Ruel. 2 heures aux langues, 8 au style, et le soir, dans mon lit, 1 heure encore à lire un classique quelconque. Je trouve que c'est raisonnable. Hein, que je voudrais avoir le temps de lire, que je voudrais faire un peu d'histoire, que je dévore aussi bien, et un peu de philosophie, qui m'amuse tant. Mais la lecture est un gouffre, on n'en sort pas. Je deviens ignorant comme un pot. Qu'importe, il faut racler la guitare et c'est dur. C'est long. Il faut que mon livre se fasse, et bien, ou que j'en crève. Après, je prendrai un genre de vie autre. Mais ce n'est pas au milieu d'une œuvre si longue qu'on peut se déranger. Je n'écrirai jamais bien à Paris, je le sais. Mais j'y peux préparer mon travail. Et c'est ce que je ferai les mois d'hiver que j'y passerai. Il me faut, pour écrire, l'impossibilité, même quand je le voudrais, d'être dérangé. Je viens de relire « Grandeur et décadence des Romains » de Montesquieu. Joli langage, joli langage. Il y a par-ci par-là des phrases qui sont tendues comme des biceps d'athlète. Et quelle profondeur de critique! Mais je répète encore une fois que jusqu'à nous, jusqu'au très moderne, on n'avait pas l'idée de l'harmonie soutenue du style. Les qui, les que, enchevêtrés les uns dans les autres, reviennent incessamment dans ces grands écrivains-là. Ils ne faisaient nulle attention aux assonances. Leur style, très souvent, manque de mouvement, et ceux qui ont du mouvement, comme Voltaire, sont secs comme du bois. Voilà mon opinion. Plus je vais, moins je trouve les autres, et moi aussi, bon. Adieu, il est 2 heures passées, il faut que je me lève à 7. À Louise Collet, Croisset, nuit de samedi, 1 heure. 11 juin 1853. La semaine a été assez funèbre. Le départ du père Parrain, l'enterrement de Madame Pouchet, et pas de lettre de toi. Malgré cela, j'ai travaillé passablement. Je viens de sortir d'une comparaison soutenue qui a détendu près de 2 pages. C'est un morceau, comme on dit, ou du moins je le crois. Mais peut-être est-ce trop pompeux pour la couleur générale du livre, et me faudra-t-il plus tard la retrancher ? Mais physiquement parlant, pour ma santé, j'avais besoin de me retremper dans de bonnes phrases poétiques. L'envie d'une forte nourriture se faisait sentir après toutes ces finasseries de dialogue, style haché, etc., et autres malices françaises dont je ne fais pas, quant à moi, un très grand cas, qui me sont fort difficiles à écrire et qui tiennent une grande place dans ce livre. Ma comparaison, du reste, est une ficelle. Elle me sert de transition et par là rentre donc dans le plan. Il n'y a qu'une seule chose qui m'effraie, c'est ma lenteur. Je crèverais que je n'aurais pas balbutié la moitié de ma pensée. Adieu, je t'embrasse. Écris-moi donc. À Louise Collet, Croisset, nuit de mardi, 1 heure. 14 juin 1853. Me sentant ce matin en grande humeur de style, j'ai, après ma leçon de géographie à ma nièce, empoigné ma Bovary et j'ai esquissé 3 pages dans mon après-midi que je viens de réécrire ce soir. Le mouvement en est furieux et plein. J'y découvrirai sans doute 1000 répétitions de mots qu'il faudra ôter. À l'heure qu'il est, j'en vois peu. Quel miracle ce serait pour moi d'écrire maintenant seulement 2 pages dans une journée, moi qui en fais à peine 3 par semaine. Lors du Saint-Antoine, c'est pourtant comme cela que j'allais. Mais je ne me contente plus de ce vin. Je le veux à la fois plus épais et plus coulant. N'importe, je crois que cette semaine m'avancera et que dans 15 jours à peu près, je pourrai lire à bouillir tout ce commencement, 120 pages. S'il marche bien, ce sera un grand encouragement et j'aurai passé, sinon le plus difficile, du moins le plus ennuyeux. Mais que de retard! Qu'est-ce que veut donc dire cette phrase dans ta lettre de ce matin? Je crois que je m'étais trompé sur mon impression d'hier. Non, les mots des bourgeois de Chartres sont bons. T'ai-je dit celui d'un curé de Trouville au prix de qui je dînais un jour? Comme je refusais du champagne, j'avais déjà bu et mangé à tomber sous la table, mais mon curé entonnait toujours. Alors, il se tourna vers moi, et avec un œil, quel œil ! Un œil où il y avait de l'envie, de l'admiration et du dédain tout ensemble.
Il me dit en levant les épaules, « Allons donc, vous autres jeunes gens de Paris, qui dans vos soupers fins sablez le champagne, quand vous venez ensuite en province, vous faites les petites bouches. » Et comme il y avait de sous-entendus entre le mot « souper fin » et celui de « sablé », ceci avec des actrices. Quels horizons ! Et dire que je l'excitais, ce brave homme. Et à ce propos, je vais me permettre une petite citation. « Allons donc, fit le pharmacien, en levant les épaules, les parties fines chez le traiteur, les bals masqués, le champagne, tout cela va rouler, je vous assure. » « Moi, je ne crois pas qu'il se dérange, objecta Bovary. « Ni moi non plus, répliqua vivement M. Homais, quoiqu'il lui faudra pourtant suivre les autres, au risque de passer pour un jésuite. Et vous ne savez pas la vie que mènent ces farceurs-là dans le quartier latin avec des actrices. Du reste, les étudiants sont fort bien vus à Paris. Pour peu qu'ils aient quelques talents d'agrément, on les reçoit dans les meilleures sociétés, et il y a même des dames du faubourg Saint-Germain qui en deviennent amoureuses, ce qui leur fournit par la suite les occasions quelquefois de faire de très beaux mariages. En deux pages, j'ai réuni, je crois, toutes les bêtises que l'on dit en province sur Paris, la vie d'étudiants, les actrices, les filous qui vous abordent dans les jardins publics et la cuisine de restaurant, toujours plus malsaine que la cuisine bourgeoise.